Le service Orange Monnaie, réception de transfert d'argent depuis la France, vous propose appel sur l'actualité.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Appelez-nous, exprimez-vous, c'est la Libre Antenne, comme tous les vendredis, vous commentez l'actualité de votre choix. Mais avant de passer au standard, je vous en parlais juste avant le journal de Namori. Désormais, tous les samedis et tous les dimanches, l'émission « Alors on dit quoi ?» de Diarran Diaye, émission qui s'intéresse, vous le savez, à la jeunesse africaine. Eh bien, cette émission aura sa déclinaison pour vous qui parlez le mandingue ou le peul. Désormais, RFI Peul et RFI Mandingue vous proposent de prendre la parole pour commenter l'actualité, pour nous interpeller sur les sujets de votre vie quotidienne. On attend donc vos témoignages, vos expériences sur tous les thèmes qui concernent la jeune génération africaine. Alors, vous avez deux numéros WhatsApp à votre disposition. C'est pour ça que je vous prévenais d'aller chercher un stylo et un papier pour noter ces deux numéros de téléphone. Pour vos réactions en langue peul, vous composerez le 221 772 67 31 31. Je vous redonne le numéro, évidemment. 221 772 67 31 31. Vous enregistrez votre message vocal, vous l'envoyez et il sera diffusé. Et pour vos remarques ou réflexions sur l'actualité en langue mandinkan, eh bien vous composez le 221 772 62 41 41. Vous voyez, c'est à peu près le même numéro sauf la fin, 41 41, en langue mandinkan, 31 31 en langue peul. Donc on attend évidemment dès maintenant vos messages vocaux. N'oubliez pas d'indiquer votre nom, votre pays, votre ville d'appel, le thème de la prochaine émission, l'environnement et le retraitement des déchets. Donc soyez nombreux. Si vous n'avez pas eu le temps de noter tous ces numéros de téléphone, rendez-vous dès maintenant sur la page Facebook de notre émission RFI Appel sur l'actualité. C'est la Libre Antenne. Comme tous les vendredis, de nombreux sujets ne vous ont pas laissé indifférents tout au long de la semaine. Jean-Baptiste, bonjour.
Oui, bonjour.
Merci de nous avoir contacté de Ouagadougou. Vous souhaitiez, Jean-Baptiste, revenir sur ces affrontements meurtriers au Burkina Faso. Les faits se sont déroulés entre dimanche et mardi dans le nord du pays, dans la commune d'Arbinda. 62 personnes tuées. Et vous dites que vous avez l'impression aujourd'hui, dans votre pays, le Burkina, de vivre les conséquences du terrorisme.
Oui, tout à fait. Effectivement, nous vivons une situation aujourd'hui qui nous amène beaucoup à réfléchir, parce que nous avons l'impression que les attaques terroristes ne visaient pas non seulement à éliminer des vies de nos FDF, mais elles visaient aussi à semer les troubles au sein des populations qui, jadis, vivaient quand même dans l'harmonie. Et cette violence-là se déroule aujourd'hui dans des zones où est-ce que le terrorisme, en tout cas, c'est très bien développé. Et ça nourrit des rancœurs.
Ouais. Alors, juste pour replanter le décor et expliquer ce qui s'est passé entre dimanche et mardi, tout a commencé par l'assassinat d'un guide religieux et des membres de sa famille. Ils ont été tués par des hommes armés, des djihadistes, dit-on. Et ces assassinats ont entraîné des affrontements entre communautés. La communauté à laquelle appartenait le leader religieux a attaqué des membres de la communauté Peul.
Voilà exactement ce qui s'est passé. Et malheureusement, les communautés s'accusent mutuellement d'être la base des violences. L'une accuse l'autre d'avoir commencé et l'autre accuse de... Enfin, c'est une situation en tout cas tout à fait déplorable. Et nous attendons beaucoup de ce gouvernement. Nous attendons essentiellement deux choses. Il faut que le gouvernement livre une guerre implacable contre ces bandits armés qu'on appelle aujourd'hui terroristes. Il faut qu'il y ait justice. Il faut qu'à quelque part, le gouvernement puisse mettre aux arrêts toutes ces personnes-là qui ont été à l'origine des violences intercommunautaires. S'il y a des gens qui ont incité les autres à aller commettre des actes de violence, qu'on puisse les identifier, qu'on puisse les envoyer devant la justice,
oui.
Pour que ça s'arrête là.
Jean-Baptiste, j'entends bien, mais il y a un problème aujourd'hui, et on en parlait le mois dernier, lorsque nous étions en déplacement à Ouagadougou, il y a un amalgame qui est fait, il y a une partie de la population qui accuse la communauté Peul, puisque nous parlons d'elle, et c'est de cela qu'il s'agit, qui accuse des membres de la communauté Peul de complicité avec les terroristes.
Ben, heureusement que c'est une partie de la population.
Bien sûr.
Et voilà, vous allez vous rendre compte que ces accusations-là se sont développées dans les zones où est-ce que le terrorisme est très fort. Sinon, dans l'ensemble, surtout l'ensemble du territoire burkinabé, Peul, comme autre ethnie, nous condamnons cette violence-là qui se passe.
Mais justement, Jean-Baptiste, quand vous parliez de priorité, est-ce que la priorité numéro un aujourd'hui, ce n'est pas de lutter contre les amalgames, justement?
Oui, tout à fait. Il faut que le gouvernement arrive à sensibiliser l'ensemble de la population. D'autant plus que nous avons arrêté des touristes qui avaient des noms d'autres ethnies, hein, des touristes, je peux le dire, qui sont passés dans la presse, des Sawadro, des Ilboudo, qui sont de l'ethnie Mossi. C'est pas forcément que c'est des Peuls. Donc, à quelque part, il faut que le gouvernement travaille à sensibiliser les populations pour qu'ils comprennent que la stigmatisation ne va pas nous aider à sortir de cette situation.
Effectivement. Merci Jean-Baptiste de nous avoir interpellé sur cette triste et douloureuse actualité. Abderrahman, bonjour.
Bonjour Laurent.
Vous souhaitez revenir sur le massacre d'Ogossagou, c'était il y a maintenant 2 semaines. 157 villageois appartenant à la communauté Peul ont été assassinés au Mali. Et 2 semaines après, vous, comme l'ensemble du pays, êtes encore sous le choc.
Tout à fait Laurent, on est vraiment sous le choc. Et je suis vraiment choqué et ça me fait encore mal de savoir que dans un état où on a un village qui est à 30 km de Bankass et 30 km de Koulongo, et donc il y avait des bases militaires dans toutes ces zones, et qu'on n'a pas pu intervenir pendant des heures, et c'est intolérable. Et qu'on n'a pas pu faire voler des avions, ni faire participer, que ce soit la MINUSMA ou que ce soit d'autres forces étrangères, à aider le pays à aller secourir ses populations. Mmh. Et je suis vraiment sous le choc par rapport à cette négligence et à cet abandon des populations à leur propre sort.
Vous diriez vraiment que la population est abandonnée, que l'État est absent de certaines parties du territoire, et notamment là, dans le centre du pays?
Il est inexistant, l'État est inexistant. La preuve, c'est la présence des milices. Mmh. Et vous voyez qu'aujourd'hui, il n'y a que des milices. Les milices, c'est quoi? C'est des populations qui ont décidé de s'autodéfendre.
Ouais, des groupes d'autodéfense. Des groupes d'autodéfense, des milices. D'ailleurs, après le massacre d'Ogossagou, le gouvernement a ordonné la dissolution du groupe d'autodéfense Dogon, accusé d'être responsable de ce massacre.
C'est la poudre aux yeux, mais ils vont dissoudre quoi? Quelle capacité le gouvernement a à aller dissoudre un groupe qui n'a pas demandé l'autorisation pour se créer? Donc je pense que ça, c'est vraiment des choses... Pour moi, l'État doit assumer ses responsabilités et qu'on puisse savoir réellement qu'est-ce qui se passe dans cette zone et où sont nos super Tucano qu'on a fait défiler ici à Bamako, où sont nos hélicoptères de combat qui ont été payés sur le budget de l'État. Je pense que l'État doit clarifier sa position par rapport à ces choses-là. Il ne faut pas qu'on continue à se mentir. Et moi, j'ai entendu le ministre de la Sécurité qui disait qu'il y a 15 000 hommes sur le terrain. Je ne sais pas s'il parle de la liste d'émargement ou c'est des gens qui sont réellement sur le terrain. Je pense qu'il y a des points à clarifier.
En tout cas, il a effectivement cité ce chiffre de 15 000 hommes cette semaine à l'Assemblée nationale, puisqu'il a évidemment été interpellé sur cette actualité par l'opposition. 15 000 hommes déployés en permanence, a-t-il dit. Merci beaucoup, Abderrahman. Bonne journée à vous, à Bamako. Merci d'écouter RFI. Des réactions maintenant sur la situation en Algérie après la démission d'Abdelaziz Bouteflika. Bonjour Mamadou.
Bonjour Monsieur Rouhan Gomez, bonjour à toute la communauté des auditeurs de RFI.
Vous êtes à N'Djamena au Tchad et vous teniez à féliciter le peuple algérien pour sa mobilisation pacifique.
Le peuple algérien a été beau ce 21 février et continue de l'être avec cette marche extraordinaire qui a abouti à la démission du président Bouteflika.
Et quand vous parlez du 21 février, c'est le début de la mobilisation, hein?
Tout à fait, Rouhan. Donc cette marche va continuer. C'est une force extraordinaire, plurielle, populaire, en parfaite communion avec son armée pour aboutir à la démission du président Bouteflika. Mais dans cette force qui aujourd'hui persiste dans le renvoi de cette vieille classe, va sortir des grands dirigeants qui demain vont tracer autrement l'avenir de l'Algérie.
Vous parliez de l'armée, vous félicitiez l'armée, puisque c'est vrai qu'elle a, elle a fait pression sur Bouteflika, elle a fini par le lâcher au fil de, des semaines, alors que l'armée était quand même la plus fidèle alliée de l'ancien président. Beaucoup s'inquiètent du rôle que va jouer l'armée maintenant.
Non, il faut pas accélérer, M. Gomez. Ceux qui ont mis la pression sur le président Bouteflika, je crois que ce sont ceux-là qui ont constitué cette classe de rente qui ont continué depuis 62 jusqu'à nos jours. Ils veulent se protéger contre, n'est-ce pas, la colère populaire. C'est en cela qu'ils ont mis la pression. Mais il y a la classe intermédiaire de l'armée qui est républicaine dans sa formation, patriotique dans sa discipline et populaire dans sa pluralité. Donc cette classe intermédiaire-là va aider le peuple algérien à avoir en son sein des dirigeants qui demain vont être, n'est-ce pas, au devant de la scène nationale et internationale.
On verra déjà dans le courant de la journée comment les manifestants réagiront, notamment quant à l'avenir d'Ahmed Gaïd Salah, hein, le chef d'état-major, cette personnalité très proche de Bouteflika qui a lu un communiqué quelques heures avant la démission du président, demandant le départ immédiat d'Abdelaziz Bouteflika. Dans la rue, son nom sera très certainement scandé dans la journée, mais pour lui demander de partir. Très certainement que les gens diront « Salah, dégage !» Comme il disait, Bouteflika, dégage ces dernières semaines. Gilles, bonjour.
Bonjour, Juan.
La démission d'Abdelaziz Bouteflika ne vous laisse pas indifférent?
Alors, elle ne laisse pas du tout indifférent, parce que c'est une situation qui est que nous attendions. Moi, je suis d'origine camerounaise, j'attends à peu près la même situation au Cameroun, et je félicite mon prédécesseur. Vraiment, je félicite les Algériens de la façon dont ils ont géré la chose. Ils se sont souvenus des années 90 avec le Fonds national, le Fonds islamique du salut, et je pense qu'ils sont vraiment tout beaux, comme disait mon prédécesseur. Ils sont tout beaux dans leur comportement.
Ouais. Qu'attendez-vous de l'armée? Est-ce que l'armée vous fait peur ou pas? Certains, on voit bien, se posent des questions. Certains la remercient puisqu'elle a fait pression, et d'autres s'inquiètent du rôle qu'elle va désormais jouer.
Dans les deux cas, je suis preneur. C'est-à-dire que l'armée, on doit la féliciter aujourd'hui. Il faut avouer que M. Gaïd Salah, le chef d'état-major des armées, a quand même été opportuniste, parce que c'est un compagnon de route d'Abdelaziz Bouteflika. D'un autre côté, il était devenu le grand ennemi de Frère Bouteflika et de tout la palatite des dirigeants des entreprises en Algérie. Mm-hmm. Mais il n'en demeure pas moins que il caresse quand même, quelque part, l'idée de devenir président de la République avant la fin de sa vie ou de sa carrière.
Ah bon?
Et là, c'est là que les Algériens doivent rester, mais vraiment, vraiment, vraiment très, très prudents.
Bon. Moi, j'avais jamais entendu parler que le chef d'état-major Salah envisageait un jour d'être président de l'Algérie, mais pourquoi pas, c'est une hypothèse. Merci beaucoup, Gilles, de nous avoir appelés. Il y avait encore beaucoup d'auditeurs, évidemment, sur la situation en Algérie. Situation à suivre dans nos différentes éditions, puisque c'est une journée test, cette journée de vendredi. Des manifestations sont annoncées à travers tout le pays, non pas pour exprimer une joie, mais pour continuer à exprimer une inquiétude, puisque ce que souhaitent désormais les manifestants, c'est le départ de tout le régime au pouvoir depuis 20 ans. Parlons maintenant du Sénégal. Mamadou, bonjour.
Bonjour, Juan Gomez. Bonjour, oui. Les filles.
Merci.
Bonjour, le Sénégal.
Merci de nous appeler de Thiès, le Sénégal, où le président Macky Sall a prêté serment pour un second mandat de 5 ans. C'était ce mardi, en présence d'une vingtaine de chefs d'État. Et signalons tout de même l'absence des membres de l'opposition. Alors ça tombe mal, Mahamadou, les opposants n'étaient pas là, alors que le président réélu propose justement à ses opposants un dialogue national, un dialogue politique.
Voilà, Juan, je dirais que c'est déjà salutaire, le fait que Macky Sall, le président de la République, qui vient d'être réélu, qui entame son deuxième et dernier mandat, qui n'était pas du tout obligé à un appel au dialogue. Mais je dis que l'œuvre à laquelle le président Macky Sall convie les Sénégalais à travers son appel au dialogue est d'une part de jeter des bases solides dans le climat social apaisé dans ce pays, mais aussi d'autre part de susciter une culture du dialogue social pouvant garantir tel acquis qui, je peux dire, est l'ambition des grandes nations. Le chef de l'État sénégalais est bien dans sa logique, hein, Juan, qui est de mettre en œuvre des politiques susceptibles de procurer davantage de bien-être aux populations en général et aux masses laborieuses en particulier.
Vous savez, Juan, je vous entends, Mamadou, je vous entends, je vous laissais parler, mais la réalité, c'est que le dialogue est rompu depuis des mois, vous le savez, et que l'opposition rejette les résultats de l'élection présidentielle de février dernier.
Effectivement, mais il y a eu autant d'observateurs. Vous voyez la prestation de serment, combien de chefs d'État, des dizaines de chefs d'État sont venus. Donc ça, l'opposition sénégalaise, moi certes, j'aime la démocratie, hein, ils sont libres. Mais je pense que la population sénégalaise actuellement répond vraiment à cet appel. Parce qu'on est dans un pays où on a découvert donc du pétrole, il y a autant de jugements. Oui. Donc le président, l'année dernière, avait appelé à un dialogue pour donc la gestion de ses ressources. Ça, c'est important, c'est salutaire. Mmh. Moi, je n'ai pas vu dans un pays où on appelle, où qu'on discute sur comment gérer les ressources pétrolières, gazières et minières.
Oui.
Ça, c'est pas pour aux politiques, c'est pour les Sénégalais.
Donc pour vous, c'est un geste fort, cet appel au dialogue national, au dialogue politique, c'est un geste suffisamment fort et l'opposition doit aujourd'hui accepter cette main tendue. Mamadou, merci beaucoup. Excellente fin de semaine à Thiès. Il y avait beaucoup d'auditeurs qui souhaitaient revenir sur le retour raté de l'opposant François Bocquet, l'opposant togolais. Il nous reste 3 minutes, donc ce serait dommage de bâcler le sujet, si vous me permettez l'expression. On aura l'occasion de vous rappeler, c'est promis, et je pense à Georges, à Ibrahima et à d'autres auditeurs qui souhaitaient revenir sur ce sujet. On va terminer en parlant football, c'est un peu plus léger. Football, j'ai le choix entre Real Madrid Zinedine Zidane ou Sénégal qui est première nation africaine du classement FIFA. On va parler Sénégal. Allez, Mamour, bonjour.
Oui, bonjour.
Le Sénégal reste la nation africaine la mieux placée au classement FIFA, classement publié il y a quelques jours.
Oui, et depuis quelques temps, effectivement, le Sénégal est première nation sur le classement FIFA, en tout cas sur le continent africain. Le fait est qu'aujourd'hui, nous, Sénégalais, nous attendons plus que ça. Pour nous, ce n'est pas un titre, déjà. Et quand on parle du Sénégal, la plupart des gens pensent qu'on a déjà gagné au moins une Coupe d'Afrique. On en a zéro.
Oui. Donc, vous dites, en fait, c'est bien beau d'être première nation africaine de football sur le classement FIFA. Sénégal est 23e. Le Sénégal est 23e au classement, mais vous êtes la première nation de football africaine. Mais encore faut-il qu'il y ait un palmarès, qu'il y ait des coupes, des trophées.
Oui. Nous attendons le trophée africain depuis beaucoup trop longtemps. Et aujourd'hui, on a un des meilleurs effectifs d'Afrique, sinon le meilleur. À toutes les lignes, on a des joueurs qui jouent dans les plus grands championnats du monde. Aujourd'hui, ce qu'on attend en tant que Sénégalais, c'est de gagner cette Coupe d'Afrique. Ce classement, pour nous, est juste une chimère. Franchement, elle n'a aucune valeur. Ce classement n'a aucune valeur pour nous.
Oui, okay. D'accord. J'entends votre exigence, Mamour. Exigence de supporter, et elle est légitime. Exact. Vous aurez l'occasion de vibrer, j'en suis sûr. Pendant la CAN 2019 en Égypte, nul doute que les lions de la Teranga seront présentés comme les favoris. Mais rappelez-vous tout de même du parcours du Sénégal à la dernière Coupe du Monde en Russie. Certes, ils n'ont pas franchi le premier tour. Le tournoi pour eux s'est arrêté à la fin du premier tour. Mais ils ont fait vibrer une partie de la planète. Tout le monde était quand même derrière les lions de la Teranga.
Oui, mais c'est sûr. Franchement, nous avons une très belle équipe aujourd'hui. Et nous vibrons tous pour cette équipe-là. Le seul fait est que le trophée, nous l'attendons depuis trop longtemps, en fait. C'est ça la vérité.
Bon, vous avez un excellent entraîneur. Vous avez un excellent entraîneur, Aliou Cissé, s'il nous écoute, on le salue évidemment. Mais c'est vrai que depuis qu'il est là, depuis 3-4 ans, il a replacé le Sénégal sur l'échiquier international du football.
On est très fiers. En plus, c'est un Sénégalais qui s'est battu pour le Sénégal, qui a joué la fameuse Coupe du Monde 2002, justement. Et oui, c'est notre guerrier, mais nous attendons vraiment beaucoup plus sur le plan tactique.
Le message est passé. Je pense que les joueurs et le sélectionneur vous ont écouté. Merci, Mamour. Bonne journée à Dakar. Excellente fin de semaine à vous tous. Merci de votre fidélité. Lundi, 25 ans après le génocide au Rwanda, nous vous proposerons une émission spéciale. Durant près d'une heure, nous répondrons à vos questions sur les causes de ce génocide, l'attitude de la communauté internationale à l'époque, des questions sur le défi de la réconciliation, sur la traque des criminels, sur la renaissance économique du pays, par exemple, ou encore sur le leadership du Rwanda en Afrique. Toutes vos questions dès maintenant au standard. Merci de votre fidélité. Caroline Paris, bonjour.
Bonjour, Juan.
Gros plan dans 10 minutes sur le site Action.
Oui, 25 ans, 3 jours de mobilisation en France pour informer, sensibiliser.